Bonjour à tous. Bonjour. Alors, il y a des visages que je connais, d'autres que je ne connais pas. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Ando. Alors, des gens me connaissent ici parce que j'ai longtemps travaillé ici à Fréjus, pendant un an, je pense. Un an, j'ai été dans cette église. Donc, c'est une église qui me tient beaucoup à cœur, je le répète à chaque fois. Mais c'est une église qui est dans mes prières. C'est pour ça qu'à chaque fois que Steve me dit « Est-ce que tu peux me remplacer ?», je n'hésite même pas, je dis « J'arrive tout de suite » parce que j'ai toujours plaisir de vous voir. Toujours plaisir de pouvoir annoncer la parole ici, de voir des enfants grandir. Hein, il y en a que j'ai vu qui étaient bébés dans les bras de la maman et là je les vois qui sont grands. Et c'est vraiment un plaisir, vous voyez que les gens grandissent, vous voyez que les gens sont là. Et vous voyez qu'ils grandissent dans le Seigneur, c'est surtout ça. Ils grandissent avec l'amour du Seigneur. Et je pense que une des choses qui peut satisfaire le plus quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, c'est de voir sa famille, les gens autour de lui grandir dans le Seigneur. Parce que vous savez que quand ils grandissent dans le Seigneur, même quand vous ne serez plus là, ils seront comment ? Toujours stables avec le Seigneur. Et pour les parents qui ont des enfants, qui ont accepté le Seigneur, je pense que c'est vraiment une bénédiction de voir leurs enfants toujours dans les églises, participant aux camps, aux différents camps, venant toujours rencontrer les chrétiens pour édifier, pour partager des choses. Et c'est un petit peu aussi, bon, je me présente, donc, il y a ma femme qui est au fond, donc, qui s'appelle Emmanuel. J'ai deux enfants, Fanny, Mitty, donc une fille qui a 5 mois et l'autre qui a 12 ans. Donc il y a un petit écart et chacune est différente. Et ce que j'aimerais, c'est qu'ils grandissent dans le Seigneur. Il y en a une qui est grande, je sais maintenant à peu près où est-ce qu'on est, mais la petite de 5 mois, je ne peux pas vous dire, évidemment. Mais dans le futur, je pense que le Seigneur permettra de peut-être d'avoir des enseignements avec elle qui feront qu'elle acceptera le Seigneur si c'est la volonté de Dieu et qu'elle puisse effectivement grandir avec lui. Et en ce moment, en fait, je parle beaucoup de ça, des enfants, des adolescents, des jeunes, parce que dans l'église actuelle où je suis à Nice, c'est surtout la partie dont je m'occupe, des adolescents et des jeunes. Et du coup, chez les jeunes, j'ai mis un programme cette année qui est de suivre un livre particulier. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien être dans un livre, que je traîne dans un livre. Je crois qu'ici, j'avais fait Néhémie, j'ai fait Éphésiens. Là, chez les jeunes, je suis dans Colossiens. Le livre aux Colossiens. Pourquoi ce choix ? On ne fait jamais des choix comme ça en disant « Tiens, je vais en prendre un au hasard ». C'est que dans Colossiens, il va parler à une église toute jeune. Donc moi, je parle à des jeunes. Une église toute jeune. Une église qui a des fondements, mais quand il y a des fondements, ce n'est pas fait pour rester des fondements, il faut construire dessus. Donc un petit peu, les jeunes, c'est ça, un petit peu pour tout le monde, c'est qu'on va poser des fondements d'abord, et après, on va construire dessus. Et on va lire un passage, justement, qui parle un peu de ça. Donc c'est Colossiens. Colossiens au chapitre 1er. Le livre Colossiens, chapitre 1er. Et ce sera du verset 20 au verset 29. Verset 20 au verset 29. Il est écrit. Il a voulu, par lui, donc par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Comme je vous l'ai dit, lorsque Paul s'adresse aux Colossiens, il s'adresse à une église qui a les bases. Et ces bases, on les voit au verset 4. On peut venir au verset 4 pour connaître un peu les Colossiens. Paul dit « Nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de la charité pour tous les saints. » La base dans une église, pour les chrétiens, c'est la foi en Jésus-Christ et la charité ou l'amour pour tous les saints. Si vous avez ça dans une église, vous pouvez construire. S'il vous manque la foi en Jésus-Christ, est-ce qu'on peut construire ? Non. S'il vous manque la charité pour les saints, est-ce qu'on peut construire ? Non, plus. Hein, vous connaissez toujours l'exemple qu'a donné Jésus-Christ, du sage et du fou qui bâtit. Le sage, il bâtit sur le roc et le fou bâtit sur du sable. Sans Jésus-Christ, donc sans le roc, c'est du sable. C'est la base pour construire quelque chose, la foi et l'amour, la foi et la charité. Et Colosse est une église dont la foi et la charité sont bien visibles. Pourquoi ? Parce que c'est assez visible en tout cas pour que ça parvienne aux oreilles de Paul. Dans le passage, on ne va pas lire, mais la personne qui va apporter l'évangile chez les Colossiens, c'est Épaphras. Épaphras, c'est quelqu'un qui travaillait avec Paul. Il va faire une chose, c'est qu'il va annoncer l'évangile et il va rapporter vers Paul les fruits de cet évangile. C'est après, hein, c'est dans les passages d'après. Et il va dire à Paul, il y a du fruit, ça progresse et c'est visible. Paul, il n'a jamais vu les Colossiens. C'est ce que dit Colossiens 2, chapitre 1er. On peut le lire, hein, vous pouvez vérifier avec moi. Chapitre 2, verset 1er, il dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage en la chair. » Donc quand il s'adresse aux Colossiens, il s'adresse à des gens qui ne l'ont jamais vu. Mais il sait une chose, c'est qu'Épaphras est passé à prêcher l'évangile et leur apporter qu'il y a de la foi en Jésus-Christ et il y a de l'amour pour les saints. C'est ce qui arrive parfois dans nos vies aussi. Peut-être que la personne qui vous a amené au Seigneur, qui vous a prêché l'évangile, ce n'est pas celui qui construit aujourd'hui dans vos vies. Ce n'est pas celui qui vous enseigne aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je suis en train de vous enseigner. Je crois que je n'ai amené personne au Seigneur aussi. J'ai personne, peut-être, qui a accepté le Seigneur lorsque j'ai prêché. Et c'est un petit peu ça, c'est que la vie avec le Seigneur, c'est une vie d'une équipe qui travaille, c'est l'esprit qui travaille. L'évangile est prêché, mais après, on construit dessus. Pourquoi on construit dessus ? Pourquoi on prêche l'évangile ? Parce que Dieu a un objectif pour nous. Dieu a un objectif et le même pour chacun d'entre nous. On l'a lu tout à l'heure, au chapitre 1er, verset 22. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible ou sans défaut, selon les traductions, et sans reproche. Saint, irrépréhensible, sans défaut, sans reproche. C'est le but de Dieu, c'est l'objectif de Dieu. Si vous vous demandez quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, je peux vous garantir que c'est ça, ça et ça. Donc si tout ce que vous faites n'a aucun rapport avec ça, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Dieu veut bâtir une vie parfaite pour vous, une vie sainte, irrépréhensible, sans défaut, sans reproche. Et dans ce message, nous allons nous arrêter sur la manière dont Dieu va faire ces choses. Nous allons nous arrêter sur la manière dont il a délégué à Paul ce ministère pour accomplir les deux choses, donc poser l'évangile comme fondation et construire sur ce fondement qu'est l'évangile. Je répète, nous avons vu chez les Colossiens, ils ont la base, ils ont la foi en Jésus-Christ. Et sans cette base, on a dit qu'on ne peut pas construire. C'est pour ça qu'il faut d'abord être clair sur la base. Il faut être clair sur la base, avant d'avancer, avant de s'engager plus loin. Sachant que rien ne peut être construit sans ce fondement. Et c'est ce que Paul fait. Il va d'abord rappeler l'évangile. Sonder les Colossiens, est-ce que tout le monde est au clair ? Est-ce que tout le monde a ce fondement ? Rappelez-vous, la volonté de Dieu, c'est de bâtir une vie parfaite pour les hommes. Donc il a besoin du fondement. La volonté de Dieu, c'est d'amener tout le monde à la perfection. Mais tout le monde ne peut pas accéder à cette espérance. Il faut d'abord, c'est ce que nous avons lu, être réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'à la base, les hommes, ils ont naturellement quelque chose de particulier. C'est ce qu'on lit au verset 21. Vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. C'est la nature de l'homme. Il n'est pas ami de Dieu. Il n'est pas de la famille de Dieu à la base. Il était où? Et c'est valable pour tous. Il dit autrefois, c'est qu'il parle aux chrétiens, donc il parle à moi, comme à vous. Étranger et ennemi de Dieu. Et si vous regardez dans ce monde, c'est quand même le cas. Et si vous vous rappelez de votre passé, je pense que vous devez vous souvenir, c'était votre cas aussi. Moi, je me souviens, dans mon adolescence, je me souviens toujours, je n'aimais pas du tout ma vie. Je n'aimais pas ma vie. Et vous savez qui je blâmais? À votre avis, Dieu. Qui m'a donné cette vie? C'est toi? Pourquoi tu m'as donné ça? Pourquoi j'ai pas ça? J'étais pas satisfait de ma vie. Et pourtant, j'étais athée. Donc, je blâmais quelqu'un en qui je ne croyais même pas. De la folie. J'étais un ennemi. Pour moi, Dieu, c'était un ennemi. Et j'étais son ennemi. Il ne voulait pas mettre en place mon monde idéal. Et je savais que si je devais m'approcher de lui, c'est son monde idéal à lui que je devais suivre. Et ça ne m'intéressait pas. Et on le voit dans la société aujourd'hui. Dieu est un ennemi. On élimine Dieu de toute institution, de toute éthique. Il y a des pays où ça passe encore, mais imaginez-vous en France, comment ça se passerait si le chef du gouvernement, si le président, fasse son discours et termine à la fin que Dieu bénisse la France. Comment ça se passerait? Allez. Ah, ça marche aux États-Unis encore, hein? Mais en France, imaginez le président Macron, Dieu bénisse la France. Que feraient les gens? Est-ce qu'ils diraient, ah, merci, merci pour cette bénédiction, merci, je suis ravi que, voilà, que le Seigneur bénisse ce pays. Qu'est-ce qu'ils feraient? Il dit, mais il fait quoi, lui? Qu'est-ce qu'il nous parle de son Dieu? D'où est-ce qu'il nous bénit? Les gens seraient en colère, fâchés. Ils feraient même tout des missives en lui envoyant. C'est un scandale. Un scandale, pourquoi est-ce qu'il nous parle de Dieu? Hein, j'avais vu une fois un débat, et puis, je ne sais pas si vous connaissez hein, Laurent Fabius, il était là en train de débattre avec quelqu'un, et puis un jour, quelqu'un, à un moment donné, quelqu'un dans la salle, il dit, Jésus-Christ est le sauveur. Et il répond, le seul sauveur, c'est le socialisme. Mais c'est notre système aujourd'hui. Les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ, les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu. Quand vous parlez de Dieu, les gens se sentent agressés, comme si quand on présentait le Sauveur, on leur présentait un ennemi. Quand on parle des éthiques que l'on trouve dans la parole de Dieu, imaginez que vous présentez le modèle familial tel que la Bible le présente. Il faut un homme, une femme qui se marie et qui ait des enfants. C'est le seul modèle possible. Est-ce que ça satisferait les gens? Certainement pas. Les gens diraient, mais qu'est-ce que tu racontes? La Bible dit, il parle que nul ne sépare ce que Dieu a réuni. Mais qu'est-ce que tu racontes? On ne veut pas de ça. On parle de santé, on parle d'éthique même, on parle ici même de l'avortement peut-être, si c'est une vie qui est dans un ventre et qu'on supprime. Si vous dites, mais je suis en train de tuer quelqu'un si vous supprimez cet enfant dans ce ventre, les gens vous disent, mais non, c'est ma vie, je ne veux pas entendre parler des choses de Dieu. Si vous enseignez la Genèse dans les écoles, après tout on enseigne une théorie à l'école, si les gens ne croient pas en Dieu peut-être, mais on peut enseigner une autre théorie qui existe aussi. Pour nous, ce n'est pas une théorie, c'est une vérité. Mais que diraient les gens? Impossible. Hors de question. Lorsque l'on connaît le résultat, si on essaie de faire une seule de ces choses, si on essaie de faire rentrer Dieu dans la vie des gens, on comprend pourquoi le terme « ennemi de Dieu » en pensée et en mauvaise œuvre n'est pas peu dire. Dieu est vraiment un ennemi pour les hommes sur cette terre. C'est une triste réalité. Et nous étions du même nombre auparavant. Et si nous sommes ennemis, est-ce que Dieu peut bâtir quelque chose sur nous? Non. Si Dieu veut bâtir quelque chose, peut-être que les gens vont trouver des bons principes dans la Bible et vont vouloir le bâtir, mais s'ils n'aiment pas Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont détruire tout ça. Ça ne va jamais pouvoir être construit dans leur vie. Alors la première chose à faire, c'est être au clair sur ça. C'est se réconcilier avec Dieu. Peut-être aujourd'hui, dans cette salle, je ne connais pas tout le monde, Peut-être que certains sont encore en guerre contre Dieu. Peut-être pas ouvertement, puisque vous êtes dans cette église. Mais peut-être que vous acceptez plein de principes bibliques. Mais vous ne voulez peut-être pas que Dieu intervienne dans vos vies. Vous ne voulez peut-être pas accepter cette pensée que Dieu va vous corriger. Accepter les enseignements de Dieu, qu'il veut retirer les mauvaises œuvres de vous. Tout cela vous dérange. Peut-être que vous ne voulez pas entendre parler de ça. La Bible nous pousse à changer d'attitude. Changer d'attitude, ou le mot peut-être que vous connaissez mieux, qui signifie la même chose, se repentir. Se repentir. C'est le même terme. Changer de pensée. Dieu n'est pas votre ennemi. Dieu veut se réconcilier avec vous. Il veut bâtir une vie parfaite pour vous. Qui veut une vie parfaite? Question dans la salle. Qui veut une vie parfaite? Je ne sais pas, hein? Moi, je vous pose la question. En tout cas, c'est ce que Dieu veut pour vous. Souvent, on se dit, mais si c'était si simple, pourquoi les gens ne se convertissent pas? Pourquoi les gens restent dans leurs mauvaises œuvres? Vous savez, le problème des mauvaises œuvres, on sait que c'est mauvais, mais on les aime. Je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre de faire une mauvaise œuvre. Je suis un ancien fumeur. Je ne me suis jamais plaint en ayant une cigarette à la main en disant « Ah, quelle horreur! Ah, j'essaie de la faire rentrer dans la bouche, mais j'ai pas envie. » Vous avez déjà vu des fumeurs? Ça se passe comment? Quel plaisir. Pourtant, on sait que c'est mauvais. C'est une mauvaise œuvre, ça abîme l'intérieur, mais on a un plaisir à le prendre. Mais c'est pareil dans tous les péchés. Vous parlez d'immoralité, toutes ces choses, du vol. Je n'ai jamais vu un voleur en disant « Ah non, il le vole parce qu'il veut quelque chose, ça lui fait plaisir le résultat de ce vol. » C'est la même chose. Les mauvaises choses sont des choses que l'on veut, mais Dieu veut que l'on change de pensée, qu'on arrête d'aimer ces choses-là. Il veut bâtir une vie parfaite pour nous, une vie sainte, sans défaut, ou irrépréhensible, sans reproche. Il veut nous sauver de la ruine. Et ce changement de pensée, il sait que ce n'est pas naturel, il sait qu'on ne peut pas le faire de nous-mêmes. Alors il a trouvé un moyen pour nous réconcilier. C'est le verset 20 qui était juste avant. Il a voulu par lui, donc par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. J'aime beaucoup le passage qu'on a lu tout à l'heure en Hébreux 10. Parce que ça nous parle de ça. Ça nous parle de comment Dieu a voulu se réconcilier avec nous. Il a été forcé, mais il l'a voulu, hein, de donner son Fils pour payer pour nos péchés, pour que nous puissions être réconciliés, pour que la porte puisse être ouverte vers lui. Puisque nos péchés nous empêchaient d'y accéder, puisque notre attitude nous empêchait d'y accéder, puisque naturellement, nous sommes ennemis de Dieu, il a voulu par Jésus-Christ nous réconcilier. Ça peut être complexe, on se dit, mais comment le fait que Jésus-Christ soit dans ma vie, cela peut me réconcilier avec Dieu? On verra ça un peu plus tard, je réexpliquerai ça. Mais je veux juste dire une chose. Aujourd'hui, comme on disait, on refuse Dieu dans notre société. Vous savez, Dieu se bat pour qu'on se réconcilie avec lui. C'est un combat. Pour Paul, il dit que c'est un combat. C'est un combat. Il utilise ses serviteurs pour combattre pour ça. Mais un jour, il va accepter. Il va dire, ok, puisque vous voulez vivre sans moi, vivez une vie éternelle sans moi. Vivez une vie éternelle sans moi. Et Dieu a réservé une place après la mort, une place où il n'y est pas. Il va satisfaire ceux qui ne voulaient pas le suivre. Le problème, c'est que si Dieu n'est pas quelque part, tout ce qui est de la personne de Dieu ne s'y trouvera pas non plus. Aujourd'hui encore, vous avez la parole, vous avez l'Esprit de Dieu qui intervient, vous avez les effets de la personne de Dieu qui sont sur cette terre. Vous avez encore l'amour, la joie, la paix que vous pouvez connaître, même des non-chrétiens peuvent connaître la paix, la joie en famille. Ils ont ça. Ils ne souffrent pas tous les jours. Il y en a qui souffrent, mais pas tous les jours. Mais un jour, quand Dieu va se retirer d'une place, c'est la place qu'on appelle enfer, il n'y aura plus toutes ces propriétés de Dieu à cet endroit. C'est un endroit où il ne sera pas. Il va satisfaire notre volonté. Donc, un endroit sans amour, sans joie, sans paix, un endroit ténébreux, sans vie, où souffrance et détresse régneront. Ça intéresse quelqu'un? Est-ce que ça intéresse quelqu'un ici? Est-ce que c'est un endroit où vous voulez aller? Pourtant, c'est ce que réclament les hommes. Et ils disent, je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Et souvent, les gens se disent, ouais, mais Dieu, il sera quand même sympa plus tard, il me laissera rentrer au paradis. Hein, on ira tous au paradis. Vous connaissez la chanson? Mais tu ne veux pas y aller. Tu ne veux pas vivre avec Dieu et tu dis qu'après, je veux aller vivre avec Dieu. C'est pas logique. Tu finiras une vie sans Dieu. C'est ce que tu voulais. C'est pour ça qu'il appelle aujourd'hui, il dit, là où je ne serai pas, c'est la mort. Réconciliez-vous avec moi par Jésus-Christ et vous vivrez avec moi dans un monde, dans un endroit où c'est la lumière, la joie, la paix, l'amour, éternellement. C'est ce que Dieu veut. Aimez la présence de Dieu, désirez-la dès aujourd'hui. Si vous lui demandez, il ouvrira la porte, il a donné Christ pour ça. C'est la base, la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ pour pouvoir avoir la présence de Dieu dans sa vie, pour que Dieu agisse dans notre vie, pour pouvoir commencer à construire une vie parfaite, une vie éternelle, sainte, irrépréhensible et sans reproche. J'espère qu'ici tout le monde a cette base. Si ce n'est pas le cas, n'attendez pas. N'attendez pas. La plus grande erreur que pourraient faire nos églises ou nous-mêmes, c'est de se dire, maintenant qu'ils ont la base, ils ont l'assurance d'être près du Seigneur, le travail est fait. C'est bon, on n'a plus besoin de s'occuper d'eux. Mais on l'a vu ici, il y a une première chose, le fondement. Mais il y en a une deuxième, il faut construire dessus. Est-ce que vous avez déjà vu une maison qui a été commencée d'être construite et qui s'est arrêtée en mi-chemin? Ça existe, hein? Qu'est-ce qui se passe généralement dans ces maisons? Est-ce qu'elles deviennent de plus en plus belles? Généralement, qu'est-ce qui se passe? Une maison, elle a une fondation, vous commencez un peu à construire et vous la laissez comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Elle se dégrade. Ça se dégrade. Ne pensez pas qu'une vie chrétienne, vous avez le salut, et puis c'est bon, j'ai plus besoin d'entraînement, tout va bien, j'appartiens au Seigneur. Si vous ne fondez rien sur votre vie va se dégrader. Elle va se dégrader. C'est pour ça que quand Paul a entendu cette bonne nouvelle d'Épaphras, il a dit, allez, il faut vite construire dessus. Parce que si on ne construit pas dessus, c'est autre chose qui va s'y mettre. Si on ne met pas la vie dedans, ça va être peut-être la mort. Si on ne met pas les belles choses en place, peut-être c'est les mauvaises herbes qui vont pousser. Et c'est le ministère de Paul. C'est là où il vient relayer Épaphras. On l'a lu du verset 24 à 25. C'est quelque chose qui ne va pas être facile. C'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est quelque chose qui est un ministère particulier. Verset 24-25, je vous le relis. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Ou que j'annonce pleinement la parole de Dieu. J'aime pas trop la gymnastique, c'est pas assez simple. Donc, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. C'est étonnant, c'est toujours ce passage, je le dis à chaque fois, mais il dit une chose, c'est qu'il va achever en sa chair ce qui manque aux souffrances de Christ. Alors, dit comme ça, à part, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il manque quoi aux souffrances de Christ? Christ, il a souffert pour tout. Il a tout accompli. Il est arrogant, ce Paul, quand même. Mais quand on comprend ce passage, on sait de quoi il parle. C'est une charge dont il a été fait ministre selon ce que Dieu lui a donné. C'est ce qu'on lit. Hein? C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée. C'est son ministère, ce n'est pas le ministère de Jésus-Christ. Quel est le ministère de Paul? Quel est le ministère de Paul, ici, qui n'est pas le ministère de Christ? Construire sur le fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Il est mort à la croix. Il a pris nos péchés sur lui. Et le message de l'évangile, c'est lui qui l'a amené à son accomplissement sur la croix. Mais derrière, nous savons que Jésus-Christ, il a envoyé le Saint-Esprit pour faire quelque chose d'autre derrière. Et cette charge-là, elle est auprès de vous, c'est-à-dire auprès des églises. Et Jésus-Christ, il a fait son ministère, mais le ministère du Saint-Esprit ou le ministère de Paul, c'est de construire sur cette église. C'est particulier, mais c'est aussi une souffrance. Si vous pensez qu'annoncer l'évangile et construire dessus, derrière, le rôle du Saint-Esprit n'est pas une souffrance, On s'est trompé. C'est une souffrance. Mais il dit un terme, Paul, c'est une souffrance qui le rend malheureux, c'est ça ? Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Il sait qu'il va souffrir, mais il sait le résultat que ça va donner. Et puis si on commence juste par l'évangile, ce n'est pas suffisant. Il y a plus, on a dit. Et au verset 25, il le dit. C'est d'elle dont j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et il y a un mot particulier, c'est le mot pleinement. Parfois, on peut annoncer la parole de Dieu à moitié, à demi-mot, ou juste le début, la fondation. Mais Paul, il va dire que, c'est par l'esprit, que la parole doit être annoncée pleinement. Le mot pleinement ici, le mot grec c'est pléro, désigne remplir entièrement, compléter dans chaque détail. Chaque détail. Il n'y a rien qu'il va falloir laisser de côté. Exécuter jusqu'au bout. C'est encore une autre manière de le dire. Et ça, pour faire les choses dans chaque détail, jusqu'au bout, ça va être un combat. Parce que pour construire sur les chrétiens, pour construire dans l'Église, il va falloir poser, tailler, rectifier, lier. Et parfois, ça fait mal. Moi, je sais qu'il y a des enseignements que j'ai reçus, ça fait très mal avant que ça rentre. Ça a fait très mal. Mais Paul, son travail, ça va être ça, annoncer pleinement les choses de Dieu. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts à recevoir pleinement cette parole ? Ou est-ce que nous voulons juste... Alors ça, ouais, je prends. Non, ça, je prends pas parce que ça ne me fait pas plaisir. Ah ça, oui, ça... Parfois, on est comme ça. On prend ce qu'on aime bien dans la parole. Quand la parole nous dit qu'il nous bénit jusqu'à 1000 générations, celle-là, on l'aime bien. On aime bien ce verset-là. Mais quand la parole nous dit que Dieu châtie ceux qu'il aime, on l'aime moins celui-là. Châtie, ça fait mal quand même. Je ne connais pas de parents qui aiment ses enfants. C'est ce que dit la Bible. Je fais de la paraphrase. Et qui ne châtie pas ses enfants. Pourquoi ? Parce que si vous les laissez faire ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils pourront atteindre cet objectif parfait, sans reproche, sans défaut que Dieu a ? Vous, quand vous éduquez vos enfants, vous essayez de les rendre meilleurs. Vous savez que parfait, ça va être difficile. Mais déjà, vous, vous êtes strict, je pense, sur ça. Vous essayez de dire, ah, ça quand même, je ne peux pas le laisser faire ça. Et Dieu, c'est pareil. Mais parfois, ça fait mal. Parfois, on ne veut pas. Alors la question que je nous pose, la question que je posais aux jeunes, c'est est-ce qu'on désire que Dieu bâtisse une vie parfaite pour nous, une vie sainte, irrépréhensible et sans reproche ? J'ai vu plein de gens me dire oui. Ou peut-être, j'ai une autre question, appréciez-vous juste votre vie telle qu'elle est ? Parfois, on apprécie juste notre vie telle qu'elle est. On ne veut pas que les gens nous cassent notre routine, que Dieu nous casse notre routine. On ne le veut pas. De la parole de Dieu annoncée pleinement. Mais qu'est-ce que c'est qu'annoncer la parole de Dieu pleinement ? Verset 26. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin d'annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le principe d'un mystère, c'est quoi ? C'est qu'on ne connaisse pas ce qu'il y a derrière. Sinon, ce n'est pas un mystère. Et là, apparemment, il y avait un mystère. Mystère caché. Non seulement on ne sait pas ce que c'est, mais en plus, on ne sait pas où il est. Donc on ne peut ni le trouver, ni savoir ce qu'il y a dedans. C'est quelque chose que nous, on ne peut ni trouver, ni savoir ce qu'il y a dedans. Et pour le savoir, il n'y a qu'une seule manière, révéler maintenant à ses saints. C'est par révélation. Il faut que quelqu'un nous dise, c'est là que ça se trouve, et c'est ça qu'il y a dedans. Pourquoi est-ce qu'on s'est toujours enseigné ? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas deviner. On ne peut pas savoir sans que la parole de Dieu nous l'enseigne. On ne peut pas. Il est dit que c'est caché de tout temps. Réfléchissez, des gens qui étaient très proches de Dieu, Abraham, Moïse, Joseph, toutes ces personnes, est-ce que vous pensez qu'ils savaient exactement que Jésus-Christ allait mourir à la croix et que le Saint-Esprit allait venir derrière et qu'il y aurait l'Église ? Est-ce que vous pensez qu'ils savaient ça ? Ils ne le savaient pas. Ils ne pouvaient pas le savoir. C'était caché de tout temps. Nous le savons parce que ça nous l'a été révélé. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous l'a enseigné. Voilà pourquoi il faut se plonger dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut trouver ce qu'il y a dedans. Un peu comme un coffre-fort. Vous savez qu'il y a des richesses dedans. Est-ce que pour vous, la Bible, c'est un coffre avec des richesses? Ou c'est juste un livre avec un peu de tout dedans que l'on peut prendre? Mais c'est bien plus que cela. Le mystère dont il parle, il dit que c'est quoi? C'est quelque chose qui nous a été révélé, mais que l'on doit aussi annoncer aux païens, à savoir quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qui pouvait penser en Genèse, dans tout l'Ancien Testament? Et même chez les gens aujourd'hui, si vous parlez à des païens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Les gens savent Christ à la croix, les gens connaissent Christ qui est venu parmi nous, mais les gens ne connaissent pas Christ en vous. Dites aux gens dehors, vous savez que Jésus-Christ peut vivre en vous. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est un message que les gens ne comprennent pas, si ce ne leur est pas révélé. Peut-être que vous le connaissez parce que ça vous l'a été révélé, mais ce n'est pas un message que les gens connaissent. Quelle est la richesse? Quel est le mystère? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que nous sommes conscients de cette richesse dans nos vies? Christ en nous. Vous pouvez regarder la plupart des religions, ils ne comprennent pas Christ en eux. Et comme ils ne comprennent pas Christ en eux, ils se sont fait une religion qui est plutôt les choses du dehors, pas les choses de l'intérieur, pas Christ en nous. Alors je m'explique. Je rappelle l'objectif de Dieu. Vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Bâtir une vie parfaite. Comment est-ce qu'on peut le faire sans Christ en nous? Question que se posent les religions. Puisque toute religion, quand même, a ce désir d'être bien, parfait. Quand vous regardez les religieux, leur but, c'est pas de devenir des gens méchants. On est d'accord. Alors, ils le font sans Christ. Et comment est-ce qu'on le fait quand on le fait sans Christ? Je vais vous lire un passage, verset 16 au verset 23 du chapitre 2. 16 à 23 du chapitre 2. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par ses jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage et qui sont fondés sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ce passage, je l'appelle le passage de la religion. Et si vous regardez les termes qu'il y a dedans, regardez la plupart de religions, est-ce que vous retrouvez ça? Je vous dis, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Prenez n'importe quelle religion, ça existe. Je parle de religion. Quand vous pensez rendre des cultes volontaires, qui ont l'air d'indiquer de l'humilité, le mépris du corps, quand prenez la plupart de religions, vous retrouvez tout ça. Sans Christ, à l'intérieur, nous avons comme seule solution les règles à l'extérieur. C'est ce que l'on fait. Regardez cette société aujourd'hui. Pourquoi la société roule? C'est parce qu'il y a des règles. Pourquoi sur les routes, toutes les voitures ne se cognent pas? Parce qu'il y a des règles. Supprimez toutes les lois et les règles. Qu'est-ce qui va se passer? Supprimez tout. Si vous regardez des films post-apocalyptiques, à quoi ça ressemble? Un beau jardin, tout est bien. C'est quoi généralement? Tout est sans dessus-dessous, sans foi ni loi, comme on dit. C'est l'anarchie, le chaos. Donc la religion des hommes, c'est ça qu'il parle des rudiments, le terme qu'il utilise, hein, ce sont les rudiments du monde, ces préceptes, elles servent à maintenir un certain ordre, mais nous en tant que chrétiens, nous sommes morts à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'Ando est en train de dire que les lois sont pas bonnes? Non, les lois sont bonnes, puisqu'elles règlent ces problèmes à l'extérieur. Mais le problème de l'homme, est-ce qu'il est à l'extérieur ou est-ce qu'il est à l'intérieur? Question. Le problème de l'homme, est-ce qu'il est à l'extérieur ou à l'intérieur? On répondra. La loi seule ne peut pas résoudre les problèmes. C'est pourquoi Dieu a envoyé Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il faut que quelque chose à l'intérieur de l'homme soit changé, pas à l'extérieur. Dans notre religiosité, on contrôle surtout ce qui vient de l'extérieur. Je parlais de la nourriture. Le Seigneur, il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Matthieu 15, 11. Pourtant, dans la plupart de religions, à quoi ils font le plus attention? À ce qui rentre dans la bouche. Et puis quand vous entendez parler, c'est pas très bon là ce que tu sors dans ta bouche. C'est pareil, notre apparence est la plus importante. C'est l'apparence qui rend religieux. Si je vous dis une religion avec des religieux, je suis sûr que dans votre tête, vous allez imaginer une apparence. Je vous dis bouddhiste. Vous avez le vêtement. Je vous dis musulman. Vous avez le vêtement. Si je vous dis prêtre catholique, vous avez le vêtement. Si je vous dis mormon, vous avez le vêtement. Mais vous l'avez tous. Pourquoi? Parce que c'est l'extérieur que l'on va soigner. Pourquoi? Parce qu'on se dit, c'est l'extérieur qui va me rendre parfait, sans défaut, sans reproche. Ah, là, ah, lui, c'est un bouddhiste. Ah oui, il doit être quelqu'un de bien. Ah, lui, ah oui, c'est comme ça qu'on va juger les gens. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ce que Dieu a dit. Il n'a pas dit que c'est vos vêtements qui vont vous changer. Mais il a dit quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impostant ses préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas? Pour celui qui est mort en Christ, ce ne sont plus les préceptes externes qui régissent sa vie. Pour construire la vie sur la vie de quelqu'un, Dieu a mis Christ en vous. Si vous avez Christ en vous, il va pouvoir construire. Comment? Pourquoi Christ en nous? Chapitre 3, verset 5. Chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Est-ce que ça se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur, ça? Est-ce que ça se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur. Donc le problème, ce qu'il faut faire mourir, est-ce que ce sont les choses à l'extérieur ou les choses à l'intérieur? À l'intérieur. C'est ça qu'il dit. Le problème, il n'est pas dehors, le problème, il est à l'intérieur. Donc, il faut régler le problème de l'intérieur. Il vous faut Christ en vous. Où trouve-t-on nos péchés? Quelle est la source? C'est notre cœur, c'est à l'intérieur. Est-ce que vous pensez qu'une loi peut nettoyer vos péchés? Hébreux 10, on l'a lu tout à l'heure. Ils avaient beau faire des sacrifices, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont fait combien de fois le sacrifice ils devaient le faire? Des tas de fois! Parce qu'à chaque fois, les péchés se renouvelaient. Ça ne marche pas. Mais il a fallu un sacrifice, celui de Jésus-Christ, pour que tous ces péchés soient effacés. Il a fallu Christ en nous, il faut Christ en nous, pour que ces péchés puissent disparaître. Et comment Christ en nous peut nettoyer nos péchés? On peut tout de suite faire un pont. Il l'est fait ici, Colossiens 3, 16. Christ, on sait qui il est. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite en vous abondamment, pleinement. Vous vous souvenez que j'annonce pleinement la parole. Abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Christ en vous, c'est la parole qui demeure en vous. C'est la parole de Dieu que vous ouvrez, cette richesse qui vient s'installer, qui vient vivre en vous et qui change l'intérieur. Qui retire ces choses qui sont à faire mourir, c'est-à-dire les passions, l'impureté, l'impudicité, les mauvais désirs, la cupidité. Toutes ces choses, c'est la parole de Dieu qui va nettoyer. Rappelez-vous, comprenez maintenant pourquoi le ministère de Paul, c'est d'annoncer pleinement la parole. S'il décidait de ne pas annoncer pleinement, ça veut dire qu'il y a des places qui ne seraient pas à Christ. Il y a des places qui seraient à d'autres choses. Et forcément, cette manière de vivre, elle ne serait pas retirée. Et on le sait tout de suite, quand il reste quelque chose. Vous savez comment on le sait ? C'est la suite du verset 3. Si on lit verset 3, 4, on arrive au verset 8. 8. Il dit 3, 8. Hein. Verset 3, 8. Chapitre 3, verset 8. Pardon. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Quand vous ouvrez des récipients, comment vous savez que ce qu'il y a dedans, c'est pourri ou pas? Comment vous savez? L'odeur. Ça, c'est l'odeur du péché qui est à l'intérieur. Ça ressemble à quoi? Colère, animosité, calomnie, paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ça sent mauvais. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Des mauvaises choses. S'il y a ces choses-là, c'est qu'à l'intérieur, il y a besoin d'être nettoyé. C'est qu'il y a quelque chose qui reste. Et je peux vous dire, je pense que si je demande aujourd'hui qui est parfait dans l'Église, je pense que personne ne lèvera la main. Qui veut l'être? Je sais qu'il y en a beaucoup qui lèveront la main, mais qui l'est? Personne ne lèvera la main. Pourquoi? Parce qu'on a tous quelque chose qui sent encore mauvais dans la vie. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter pour pouvoir le nettoyer. Si on fait l'impasse dessus, hein, on met du parfum, c'est bon, ça sent bon. C'est bon, personne ne va voir. Mais devant Dieu, il faut dire, Seigneur, ça ne va pas et j'accepte ta parole. Cette parole va me transformer. Construis dans ma vie. Pose les blocs. Il manque une brique ici. Construis dans ma vie. C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut bâtir une vie parfaite pour nous, une vie sainte, irrépréhensible, sans défaut, sans reproche. C'est la cible, pas moins. C'est seulement ça la cible. Alors quand nous voulons nous évaluer, nous savons tout de suite selon la manière dont nous parlons, selon la manière dont nous réagissons. C'est l'odeur de notre vie, à l'intérieur. J'espère que tout le monde aujourd'hui peut dire « J'ai Christ en moi ». Et si vous avez Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Peut-être que vous n'avez pas la gloire aujourd'hui parce qu'il reste des péchés. Mais si vous avez Christ en vous, c'est l'espérance, c'est-à-dire c'est une certitude. Vous l'atteindrez, cette gloire. Peut-être pas sur terre, mais vous l'atteindrez auprès du Seigneur. J'espère que vous avez tous, aujourd'hui, cette vision. Pour accomplir cet objectif, nous avons vu qu'il y a deux choses. Poser le fondement de l'Évangile. Ensuite, construire sur ce fondement, c'est-à-dire enseigner la sainteté. Nous avons vu que la seule solution existante pour l'atteindre, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Un mystère qui nous a été révélé. Et c'est important de dire, c'est un mystère qui nous a été révélé. Donc si vous avez des gens qui ont ce besoin, ils ne vont pas le deviner. Il va falloir annoncer l'Évangile. Il va falloir le leur révéler aussi. Plusieurs questions, je poserai. Premièrement, est-ce que Christ est en vous? Vous le savez. Moi, je ne le sais pas. Mais vous le savez. Et le Seigneur le sait. Si ce n'est pas le cas, c'est aujourd'hui le jour du salut. Venez à lui. Deuxième question, est-ce que sa présence a changé quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous avez changé d'attitude depuis le jour où vous l'avez connu, où vous êtes le même? Si vous n'avez pas changé, et vous vous êtes empiré, c'est qu'il faut construire. Ne laissez pas cet édifice sans rien, sans s'en occuper. Laissez-vous Dieu bâtir dans votre vie. Ou vous dites-vous, non, c'est moi qui construis ma vie. Laissez la parole habiter en vous abondamment et non pas vos pensées. J'espère que tout le monde est d'accord sur ces trois questions avec une réponse claire dessus. Je le répète, si ce n'est pas le cas, il est temps dès aujourd'hui de changer d'attitude, de se repentir, changer de pensée. Si vous avez répondu oui, si vous êtes au clair sur ces trois questions, si vous êtes quelqu'un qui est avec Christ en vous, qui avait décidé de bâtir sur votre vie un édifice par la parole de Dieu, il y a une chose à faire, c'est ce que je disais, et c'est ce que Paul fait. Dernier verset, enfin le verset 29, donc dernier verset du premier chapitre. C'est l'attitude de Paul. C'est l'attitude que doit avoir une église qui a les fondements et qui construit. C'est lui, c'est Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Encore l'objectif. C'est à quoi je travaille. C'est ce que Paul dit. C'est à quoi je travaille. C'est un travail. Comment ? En combattant. Ce n'est pas une partie de plaisir. C'est un combat. Ça dure. Mais en combattant comment ? Avec Christ en nous. Avec sa force qui agit puissamment en moi. Et j'espère qu'aujourd'hui, dans notre Église, nous puissions dire « Je vais travailler avec la force du Seigneur. Je suis prêt à ce que le Seigneur construise dans ma vie et je veux que d'autres encore puissent avoir une vie vouée à être parfaite comme la volonté de Dieu le réclame. » Amen. Prions. Seigneur, je veux d'abord te remercier. Remercier parce que, malgré que nous soyons des ennemis, des pécheurs, des gens qui ne t'aimaient pas, toi tu nous as aimés le premier. Tu es venu jusqu'à nous. Tu as offert ta vie en sacrifice. Tu es venu en tant qu'homme. Tu as souffert toutes les souffrances morales, spirituelles, physiques, Seigneur, pour des gens qui ne t'aimaient pas, comme moi. Merci Seigneur. Merci pour ce salut. Merci pour cet amour. Merci parce que je ne pourrai jamais te le rendre. Mais toi, Seigneur, tu nous as aimés sans rien attendre en retour. Tu m'as aimé tel que j'étais, comme nous l'avons chanté. Merci, Seigneur, pour cette Église. Merci pour l'amour que tu lui as montré. Merci, Seigneur, aussi parce que cette foi en Jésus-Christ, elle est simple, tellement simple. Et Seigneur, je te remercie parce que je ne pouvais rien faire. Merci encore, Seigneur, pour chaque âme présente dans cette Église. Je te remets chaque âme, ses besoins. Tu connais chaque cœur. Tu connais ce qu'il y a dans nos vies, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui puissent t'accepter aujourd'hui, simplement en te le demandant, parce que je sais que si on te demande quelque chose, tu l'acceptes. Merci, Seigneur, aussi, parce que cette Église, tu l'as fait tenir aujourd'hui. Elle combat pour ton Évangile. Construis, Seigneur, encore dans cette Église. Édifie-la. Que tu puisses, Seigneur, aussi, amener d'autres âmes qui puissent venir ici, qui puissent bâtir aussi avec eux. Merci, Seigneur, en tout cas, pour cette vie que tu as changée, ces vies que tu as changées. Merci parce que tu continues de nous changer, Seigneur, dans les moindres détails. Pardon, Seigneur, lorsque je refuse parfois ton enseignement en me disant que je fais déjà bien les choses. Apprends-moi à regarder mes défauts d'abord, Seigneur. Apprends-nous à regarder d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de nous et non pas ce qui est à l'extérieur. Apprends-nous, Seigneur, à suivre ton objectif afin que tu puisses nous rendre sans défaut, sans reproche, saints. Car tu es saint. Merci pour ta sainteté. Seigneur, je te prie maintenant de bénir les moments que nous passerons encore après. Merci Seigneur de bénir cette Église. Merci Seigneur de donner des bonnes conversations. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, aussi continuer à nous édifier aussi les uns les autres, construire selon ta volonté dans nos vies. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce ministère que tu nous as tous donné, Seigneur. Gloire te soit rendue et que toute louange t'appartienne. C'est en vue de cette prière. Amen.